Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bienvenue dans C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe. Salut à tous les cinq.
Bonsoir.
Émilie, votre choix de l'actu du jour.
Amour, famille, trahison et meurtre, je vous raconterai l'affaire Pastor qui est de retour devant la justice ce lundi.
Mohamed, votre story du jour.
On a mis la caméra de C'est à vous dans la valise diplomatique du ministre de l'Europe en voyage en Hongrie. Je vous raconte tout ce soir.
Clément Beaune qui a suivi une équipe de reportage de C'est à vous. Pierre, dans votre œil.
Je vous dirai pourquoi les Stones, pendant leur campagne actuelle aux États-Unis, ne chantent plus leur tube mythique Brown Sugar.
Patrick, votre édito du jour.
La chaîne de messages sur les réseaux sociaux qui a conduit à l'assassinat de Samuel Paty.
Mathieu, dans le 5 sur 5 ce soir.
Un autre enjeu diplomatique un peu plus léger, quoique le Mozzagate, la mozzarella dépasse le camembert en France. Figurez-vous qu'on fait de la mozza à Paris.
Ah, et on va apprendre ça dans le 5 sur 5. Autant de sujets que l'on évoque avec nos invités, notamment Caroline Fourest, l'essayiste et journaliste qui est ce soir notre invité, mais aussi Antoine Decaune qu'on reçoit autour du risotto au Beaufort d'Alpage, cuisiné en ce moment même par Emmanuel Renaud, chef 3 étoiles des Flocons de Sel à Megève, avec des cèpes énorme ramassé par vos soins, Emmanuel, lundi.
Tout à fait. Bonsoir. Merci de m'accueillir à l'occasion du salon de Tokissim à Megève, 4e édition. Et je vous ai ramassé des cèpes, du Beaufort d'Alpage et des chouraves que je vais vous faire une petite recette que vous allez pouvoir déguster tout à l'heure.
Pas de mozza ce soir.
Pas de mozza. Je suis plus Beaufort, reblochon, mais mozza pas trop.
Ah, vous êtes anti-mozza. C'est un chef anti-mozza ce soir qui cuisine pour C'est à vous. C'est le cas?
Je ne suis pas anti-mozza, en tout cas, je suis pro-Beaufort et fromage de montagne.
Une réponse diplomatique. Merci, cher Emmanuel. À tout à l'heure. Mais d'abord, l'édito de Patrick Cohen. Un an après la mort de Samuel Paty, les enquêteurs ont pu établir le scénario de l'assassinat et répondre à cette question. Qu'est-ce qui a conduit un jeune djihadiste résidant à Évreux sur le chemin d'un prof d'histoire géo des Yvelines?
Au départ, c'est le mensonge d'une collégienne de 13 ans qui n'avait pas assisté au cours de Samuel Paty, et pour cause. Elle était sous le coup d'un renvoi de 2 jours pour absentéisme et mauvaise conduite. Elle a d'ailleurs prétendu devant les juges qu'elle avait inventé cette histoire pour couvrir son exclusion auprès de ses parents. C'est donc elle qui raconte à son père que Samuel Paty a discriminé les musulmans dans la classe en leur demandant de quitter la classe, ce qui est faux. Elle qui accompagne son père au commissariat pour un dépôt de plainte contre l'enseignant. Elle, enfin, qui réitère son récit mensonger directement aux terroristes dans l'après-midi du drame. Révélation hier du journal Le Monde. Parmi les 5 collégiens qui ont passé 3 heures avec Hans Zoroff pour l'aider à identifier Samuel Paty en échange de quelques centaines d'euros, l'un d'eux a composé le numéro de la jeune fille qui a donc échangé au téléphone avec le djihadiste juste avant son crime.
Ces adolescents sont considérés comme des complices?
Oui, ces 5 collégiens devraient être jugés pour complicité d'assassinat terroriste, crime passible pour un mineur de 20 ans de réclusion criminelle. En revanche, et curieusement, l'adolescente qui est à la base de toute l'affaire n'a été mise en examen que pour dénonciation calomnieuse, un délit réprimé au maximum pour un mineur de 2 ans et demi de prison.
Et c'est par les réseaux sociaux que le terroriste a eu vent de ce mensonge.
Oui, c'est d'abord le père de la collégienne qui diffuse 2 vidéos et plusieurs posts sur Facebook en reprenant la version de sa fille et en livrant le nom du prof et celui de son collège. Vidéo relayée sur Twitter par une mère de famille de Nîmes, une certaine Priscilla, cachée derrière le compte Cicatrice Sucrée, un compte supprimé le soir même de l'assassinat. Il s'agit d'une femme de 33 ans, convertie à l'islam, qui a épousé religieusement un détenu condamné à 14 ans de prison pour un projet d'attentat à Marseille. Hans Zoroff est l'un des abonnés du compte Cicatrice Sucrée. C'est comme ça qu'il apprend cette histoire. Il échange plusieurs messages privés avec la jeune femme pendant plusieurs jours, avant de poursuivre ses recherches et de contacter le père de la collégienne. Priscilla a été mise en examen en juin dernier pour association de malfaiteurs terroristes. Elle était le chaînon manquant dans ce circuit d'information qui s'est refermé comme un piège sur Samuel Paty.
Les réseaux sociaux ont donc joué un rôle décisif dans ce drame.
Ils ont servi de caisse de résonance à un mensonge dérisoire mais mortel. Et ils ont permis à un terroriste isolé de ne pas frapper au hasard, comme c'est souvent le cas, sauf, bien entendu, à Charlie Hebdo, mais de commettre un attentat ciblé contre un homme qu'il ne connaissait pas, dont il ignorait l'existence 10 jours avant de le décapiter. L'assassinat révoltant de Samuel Paty vient aussi nous rappeler que quelques messages ou vidéos de dénonciation peuvent suffire à planter une cible sur la tête d'un homme et à le désigner à la vindicte de fanatique criminel.
Bonsoir Caroline Fourest.
Bonsoir.
Journaliste, essayiste, merci de votre présence ce soir. Votre réaction alors que la chaîne criminelle qui a conduit à l'assassinat révoltant de Samuel Paty est désormais établie avec le rôle, on vient de le voir, des réseaux sociaux.
C'est pas une surprise, hein. Honnêtement. Ça fait des années qu'on dit que ces chaînes mortifères finiront par tuer et que le pire, ça n'est pas, comme on essaie de nous l'expliquer parfois, des filières très... Il y a les filières très organisées, bien sûr, mais qu'à côté de ces filières très organisées, c'est pas souvent à la mosquée que se fait le projet d'un attentat. Ça se forme au sein de ces meutes qui sont composées de 1000 lâchetés, de 1000 loups qui crachent toute la journée au nom de l'islamophobie, désignent des cibles et finissent par
les atteindre.
Fournir des munitions à des meurtriers.
Ça fait des années qu'on le sait et des années qu'on ne fait rien. Ou qu'on ne fait pas assez.
Oui, mais regardez vers quel océan d'horreur on est, auquel on est confronté. Je veux dire que nous sommes tous prisonniers.
C'est le prisonnier des Danaïdes, quoi, en fait.
Ah, vraiment, c'est le tonneau des Danaïdes. C'est une polarisation, c'est un mouvement mondial qui fait qu'aujourd'hui, encore une fois, un très jeune adolescent peut être retourné, son cerveau peut être lobotomisé grâce à son téléphone portable. Et c'est tout l'enjeu et c'est tout le défi pour des professeurs comme Samuel Paty. Encore une fois, on est dans un pays qui, sous la Troisième République, rappelez-vous, on a réussi à survivre à la polarisation des deux France. À l'époque, il n'y avait que deux France. Et cette polarisation qui était en train de déchirer la République, on a pu se ressouder, recoudre les liens grâce à la figure de l'instituteur et de l'école publique qui, justement, allait essayer de faire germer la raison, le raisonnement, y compris chez des petits catholiques qui pouvaient avoir le cerveau infesté de superstitions, de préjugés. Mais il y avait quelque chose... qui n'était pas face à lui, en plus des superstitions, en plus des préjugés et de l'incitation à la haine religieuse, c'est qu'à l'époque, un instituteur, il avait face à lui une classe qui l'écoutait. Et il luttait contre les préjugés de la famille de ses élèves, mais c'est tout. Aujourd'hui, les instituteurs comme Samuel Paty sont devant des élèves qui passent plus de temps sur leur téléphone portable qu'en classe. C'est pas contre des préjugés seulement familiaux, encore que dans l'histoire de la collégienne, le rôle des parents et du père est abominable. Ces élèves ne seraient pas aussi manipulables s'ils avaient été éduqués par des parents beaucoup plus responsables. Mais il y a quand même une leçon aussi à tout ça. C'est que ce n'est pas les élèves de Samuel Paty qui ont tué Samuel Paty. Les élèves qui suivaient les cours de Samuel Paty adoraient leur professeur. Quelle que soit leur famille, quel que soit leur téléphone portable, ils ont tous la même émotion que nous par rapport à ce qui s'est passé. Ce sont des élèves qui ne suivaient pas les cours de Samuel Paty, qui n'avaient pas un professeur aussi courageux, aussi brillant, qui ont aidé à le tuer.
Demain, vendredi, les établissements scolaires sont invités à rendre hommage à Samuel Paty. À un moment symbolique, les équipes pédagogiques restent libres de choisir la forme de cet hommage. Mais ce matin, Jean-Michel Blanquer a précisé que s'il y avait des perturbations pendant cet hommage, elles seraient sanctionnées, comme cela avait été le cas l'an passé. Ça veut dire que des incidents sont à craindre et que peut-être que rien n'a changé malgré l'onde de choc qui a saisi la France il y a un an. C'était le titre d'ailleurs ce matin du journal Le Télégramme. Un an après, rien n'a changé. Vous partagez ce constat ?
J'ai pas envie de laisser croire que rien ne change parce que je crois quand même que nous avons tous gagné en lucidité, que nous apprenons, que nous avons un diagnostic de plus en plus précis sur les sources de cette horreur. Par contre... Quand on sème la peur, et c'est bien pour ça que le terrorisme continue à être une méthode qui séduit un certain nombre de radicaux, une fois qu'on a semé la peur, on crée des lâchetés, on défait une communauté en face de résistance. Or, on a vu qu'à chaque moment aussi terrible, il y a des gens qui gagnent en courage, il y a des gens qui gagnent en lucidité, et puis il y a des gens qui nous abandonnent. Il y a des gens qui, au contraire, sont encore plus aveugles et encore plus lâches qu'avant. Et donc, aujourd'hui, le vrai problème, par exemple, c'est pas d'avoir... un ministère de l'Éducation nationale qui a pris la mesure de ce qui s'est passé. Et le ministère de l'Éducation nationale a pris la mesure, en tout cas au niveau politique. Mais en dessous, il y a une administration. Puis en dessous, il y a une communauté de professeurs.
Qui explique qu'ils ne sont pas de taille à lutter contre cette radicalisation. Entre les quatre murs de sa salle de classe, on se sent bien seul.
Bien sûr. Et on demande aujourd'hui aux enseignants d'essayer de réparer une société en 1000 morceaux traversée par 1 million de propagandes, et encore une fois, pas que la propagande islamiste, toutes les propagandes, le complotisme, la haine de la science, la haine de la raison, Et là, je veux dire, la barque est extrêmement lourde pour eux. Donc, pour pas qu'ils se sentent totalement seuls dans une salle de classe, il faut qu'ils soient sûrs, effectivement, du soutien absolu, vraiment infaillible de leur hiérarchie, ce qui a manqué à Samuel Paty lorsqu'il a commencé à subir des attaques, mais aussi de leurs collègues. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des professeurs qui se sentent seuls dans leur salle de prof. Et notamment, il y a aussi un peu une relève des jeunes professeurs qui ont plus tendance à vouloir un peu mettre sous le tapis ces questions, ou des professeurs qui ont peur. Et du coup, ceux qui vont vouloir rester courageux se sentent un peu seuls.
Oui, parce qu'ils ont face à eux des jeunes, une partie des 18-30 ans, qui ne veut pas offenser les croyants. Et c'est cette jeune génération aussi de professeurs qui partagent.
C'est ça, c'est que ce n'est pas simplement les jeunes dont je parle dans Génération Enfoncée qui effectivement mélangent tout, la critique, encore une fois, du fanatisme religieux avec une forme d'incitation à la haine contre les croyances. Le fait qu'ils ne fassent plus distinction entre un discours contre les individus et ce qui relève du débat d'idées sur les dogmes et les symboles, ça, c'est la mission de l'école. Rien que l'école peut avoir des années devant elle pour essayer de faire passer ce message. Mais si en plus la relève des enseignants fait partie de cette génération qui considère qu'il faut respecter, encore une fois, les pudeurs communautaristes, céder au relativisme ou un peu démissionner pour ne pas créer, pour ne pas faire de vagues. La rencontre des deux, c'est terrible parce que face à ce monde toujours plus radicalisé, toujours plus polarisé, toujours plus manipulé, on n'a un peu que l'école pour essayer de nous sauver.
France Inter et Libération ont pu rencontrer certains des anciens collègues de Samuel Paty dans son collège de Conflans-Sainte-Honorine. Ils ont accepté de parler pour la première fois. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que leurs témoignages en disent long sur ce qui pèse sur leurs épaules et dans leur tête.
On a eu la visite du Premier ministre, du ministre de l'Éducation nationale, juste à la reprise en novembre, et qui nous avait dit surtout, ne vous auto-censurez pas, parce que sinon, les terroristes auront gagné. C'est tellement facile à dire quand on n'est pas sur le terrain. Quelle protection on a ? Quel soutien ?
Quelle formation ?
Moi, le fait qu'un élève ait été mis en examen dans ma classe, ça m'a vraiment achevée. C'était un élève que j'aimais bien, que j'aimais beaucoup. Les premiers temps, je n'ai pas pu revenir parce que j'arrivais plus du tout à me concentrer, à lire quoi que ce soit. Et j'avais aussi cette peur de flancher devant les élèves, de faire n'importe quoi.
J'ai toujours cette peur, des fois, lorsque je me gare, d'aller jusque chez moi, de me dire, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et là, dernièrement, depuis la rentrée, j'ai peur, je me retrouve même à fermer la porte de ma chambre à clé, parce que je me dis, on ne sait jamais.
Est-ce bon possible de les rassurer ?
On comprend qu'ils aient peur.
On sent du découragement.
Bien sûr, bien sûr. Et encore une fois, vraiment, personne ne peut les blâmer d'avoir peur. C'est normal qu'ils aient peur. Mais ce qu'on peut tous essayer de faire collectivement, c'est, encore une fois, essayer de former une sorte de, le plus possible, de bouclier. C'est-à-dire, encore une fois, faire en sorte que, d'abord, leur métier soit revalorisé, financièrement, parce que ce sont des professeurs qui sont très peu payés, mais pas seulement, qu'ils soient revalorisés aussi en termes de respect dans la société. Ça doit être une figure absolument, je veux dire, que tout le monde doit inciter à respecter. Les familles en premier lieu, les parents d'élèves en premier lieu. C'est là qu'on va pouvoir renouer du lien. Et puis aussi les autres autorités qui sont elles-mêmes beaucoup dégradées, il faut bien le dire, l'autorité du politique. Moi, pour vous dire les choses, il y a quelque chose que je n'arrive pas à digérer, par exemple, c'est que quelques mois après ce qui s'est passé et l'assassinat de Samuel Paty, rappelez-vous ce maire, cet enseignant de Trappes, Didier Lemaire, qui dit « c'est de plus en plus difficile d'enseigner, voilà les difficultés que j'ai dans ma classe ». Et tout de suite, on a la figure d'une autre autorité, le maire de Trappes, qui part en campagne contre l'enseignant, qui l'attaque, qui va même franchir les portes du sanctuaire d'un établissement scolaire pour distribuer un tract. Et à la fin du tract, qui cite qui comme référence ? Le rappeur Médine, qui est un des rappeurs qui islamise la jeunesse. C'est fabuleux quand même qu'une autorité politique pour se faire réélire, parce que ce maire ne pensait qu'à ça, et d'ailleurs ça a marché.
Et il a réussi, il a été réélu dès le premier tour.
Et c'est ça qui est terrible. Donc la responsabilité, c'est collectif. Les gens qui réélisent des maires qui font ce genre de choses portent la responsabilité de défaire l'autorité publique, de défaire aussi le respect qu'on doit à des gens qui disent « j'ai peur, c'est dur dans ma classe ». Et encore une fois, il faut que les autres collègues, les autres professeurs aient une forme de solidarité absolue vis-à-vis de leurs collègues.
Ne stigmatise pas l'ensemble des élèves ou l'ensemble de Trappes, par exemple, de la ville, c'est ce que certains ont dit aussi.
Mais vous voyez, ce discours-là, quand un professeur dit « c'est difficile dans ma classe », lui dire « vous êtes en train de stigmatiser une ville, des habitants, c'est vous le coupable », ce discours-là, je suis désolée, c'est le début d'une chaîne qui va dire « ah oui, de toute façon, vous faites monter l'islamophobie ». Alors, qui est l'islamophobe ? Il faut être vraiment responsable avec ce genre de choses. La victimisation à outrance, tout le monde en joue. Hein, et ce n'est pas que sur l'islam. Tout le monde en joue. Mais quand il s'agit de sujets qui peuvent mener
à des radicalités pareilles et à des crimes, je pense que chacun devrait un tout petit peu raison garder.
Hier, Jean-Michel Blanquer a lancé un groupe de réflexion qu'il a appelé le Laboratoire de la République pour ouvrir un débat, notamment avec la jeunesse, sur les valeurs de la République. Il expliquait ça ce matin au micro de Jean-Jacques Bourdin.
Par rapport aux préoccupations de la jeunesse, je pense à l'environnement en particulier, oui. Je pense au féminisme, eh bien, il y a une vision républicaine de ces sujets, qui part notamment du sujet de l'égalité, tout simplement, l'égalité des droits entre les êtres humains, et qui s'intéresse moins aux identités des gens, aux origines des gens, que tout simplement au fait que nous sommes entre êtres humains, si je puis dire. Nous avons besoin d'une société de fraternité, d'une société de paix, et pour cela, il faut les principes républicains. Et de ce point de vue-là, il me semble que la tradition française, la trajectoire française de définition de la République, et le cadre adéquat, alors que parfois on nous propose d'autres modèles venus d'ailleurs.
Alors d'autres modèles, il fait référence au wokisme, il l'a dit d'ailleurs plus tard, la France et sa jeunesse doivent échapper à l'idéologie woke. Juste pour s'arrêter un moment sur ce terme qu'on entend beaucoup, woke, ça vient du verbe to wake en anglais, donc s'éveiller, soit le fait d'être éveillé, conscient des inégalités sociales, par opposition aux personnes qui seraient endormies face à la discrimination que subissent les femmes, les LGBTQ, les populations d'origine étrangère. Il faut opposer ça, la République, au wokisme ?
Regardez les attaques qu'on a subies après la mort de Samuel Paty dans la presse américaine, dans des cercles universitaires anglo-saxons, pour avoir simplement dit « Nous, notre protection, c'est la laïcité, c'est l'universalisme, c'est d'essayer de faire en sorte que l'école continue à permettre à chaque élève de devenir qui il veut sans l'assigner. » Qui est une philosophie qui n'est absolument pas comprise dans le monde anglo-saxon. Ou au contraire, on doit mettre en avant sa différence et exister à travers sa différence. Et encore une fois, l'universalisme, en tout cas celui que je porte, parce qu'il y a des universalistes de mauvaise foi, et je les ai combattus comme militante homo il y a des années. Mais l'universalisme que portent les gens sincères et qui sont sincèrement attachés à l'égalité, c'est un universalisme qui combat les discriminations, mais qui permet aussi à chacun de s'auto-énoncer et de ne pas être réduit à une partie visible de son identité. C'est une ambition philosophique incroyable, c'est complètement fou de penser qu'on peut encore la faire vivre, mais si on ne se bat pas pour elle, il n'y a aucune raison que ça survive, parce que dans le monde qui est dominé culturellement plutôt par une vision plutôt communautaire, mais ce n'est pas négatif en soi le communautaire, c'est dangereux quand ça devient identitariste, c'est-à-dire quand ça vous enferme dans une identité et que vous n'existez que à travers cette vision, encore une fois, très réductrice de l'identité. Dans notre pays, on sait que c'est extrêmement dangereux en ce moment parce qu'il y a des gens qui peuvent manipuler ces assignations identitaires pour nous monter les uns contre les autres. Donc c'est nécessaire de se réveiller, de se dire on va se donner un peu d'oxygène, on va essayer de faire revivre une ambition philosophique qui est l'égalité, mais l'égalité, encore une fois, via l'universalisme, pas via le communautarisme.
Jusqu'à présent, dans leur immense majorité, les Français ont refusé de confondre islam et islamisme. Mais il y a un homme qui n'est pas encore candidat, qui lui les associe, Éric Zemmour. Comment est-ce que vous réagissez à sa percée dans les sondages ? De quoi est-elle le syndrome ?
Bah, c'est le syndrome qu'un malheur n'arrive jamais seul, si vous voulez. On passe des années à être attaqué par des radicaux, des islamistes, des attentats. Par définition, ces malheurs entraînent d'autres malheurs. Pour moi, Éric Zemmour, c'est un malheur. C'est un malheur parce que c'est le malheur de la simplification, parce que c'est justement opposer à une radicalité identitaire, une autre radicalité identitaire, certes qui ne tue pas, mais qui par contre déchaîne des passions tristes, une vision rabougrie, et en fait fait marcher la machine des gens d'en face. C'est-à-dire que moi je travaille sur les propagandes des intégristes religieux et sur les propagandes islamistes et sur les stratèges de l'islamisme. Et je sais à quel point ce qu'est en train de faire Éric Zemmour les régale, va leur permettre de rafler encore plus de jeunes. Or, on a envie aujourd'hui d'apaiser les choses, on a envie de remettre les jeunes dans une dynamique justement qui leur donne envie d'être fiers d'être français, d'aimer leur pays, d'aller à l'école, d'étudier, de se battre pour l'environnement et d'aller mieux. Le fait qu'on est à peu près certain de passer désormais cette campagne électorale coincée entre quelque part Marine Le Pen et Éric Zemmour, qu'est-ce que je vous dis, je comprends que des gens qui se disent « rien ne bouge » et envie de l'écouter. Et se disent « au moins il parle fort, au moins il parle clair ». Mais moi j'aimerais qu'on dépasse un peu la phase un peu infantile « je dis tout haut, je dis tout fort et je crie très 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 fort » pour vous dire que personne ne vous a jamais dit ça avant. Parce que ça fait quand même des années qu'on parle de ces sujets et je me souviens du temps où on n'était que quelques-uns à lancer des alertes précises, nuancées et encore une fois très documentées sur les dangers, ce qui montait, et essayer de proposer un peu des solutions. Et je suis fatiguée des gens qui passent après ça, qui crient en boucle et qui n'apportent rien. Parce que encore une fois, maintenant, on a besoin d'être... Le diagnostic, on l'a. Passons à une vraie discussion sur les solutions. Les solutions, c'est la citoyenneté. Les solutions, c'est la laïcité. C'est un État qui marche. Qu'on ait des discussions sur faire appliquer la loi, mieux faire appliquer la loi, la force de l'État, éventuellement, j'ai pas de tabou, mieux appliquer les reconduites à la frontière, mais qu'on ne mélange pas tout. La chaîne de jeunes qui ont dénoncé Samuel Paty n'ont rien à voir avec l'immigration. Vous avez, oui, un tueur qui peut venir des filières migratoires, un mineur isolé par-ci, par-là. Mais ce n'est pas l'essentiel des terroristes qu'on a eu en France. Mmh. Ça peut exister. Mais la chaîne de jeunes qui donnent en pâture le nom d'un prof d'histoire géo, c'est ça le problème. Et pour leur parler à eux, Éric Zemmour n'est pas la solution. Marine Le Pen n'est pas la solution. La solution, c'est qu'on ait un débat concret sur comment on fait pour vivre mieux dans ce pays.
De l'apaisement, de la nuance dans un monde qui vocifère. C'est un peu l'objectif de Franc-Tireur, ce journal, ce nouvel hebdomadaire que vous lancez, avec Christophe Barbier, Raphaël Enthoven, à partir de novembre, qui se veut un pamphlet contre l'extrémisme, l'obscurantisme, le wokisme et la cancel culture. C'est pas mission impossible d'apporter de la nuance aujourd'hui, maintenant.
Ben c'est pour ça qu'on s'est dit que finalement, parce que néanmoins, beaucoup de nos collègues font ce travail-là toute la journée, mais là, on s'est dit, on va se mettre ensemble, ça va nous faire du bien. Déjà, on va se sentir un petit peu moins seul. Honnêtement, c'est très excitant de lancer un titre de presse. C'est quelque chose qui est presque anachronique, oui, qui est presque un peu perdu d'avance. Mais
perdu
en même temps,
d'avance, Caroline?
Non, mais non, justement, non, oui. parce que d'abord, il y a un appétit fou qui, même moi, me surprend. Les préabonnements nous surprennent, en fait. Il y a vraiment un appétit qui s'est manifesté déjà très vite. Surtout, ce que j'aime, c'est que c'est une bande de gens qui sont tous un peu des êtres hybrides, certes éditorialistes, mais aussi hommes de théâtre, ou philosophes, ou comédiennes, comme Rachel Kahn, Amnouche Chalmani, Olivier Babot, Jean-Claude Mailly, syndicaliste, et qui avons envie de dire, oui, on croit encore à la nuance, oui, on croit encore au pouvoir de la raison, et puis on va le dire fort. Parce qu'en fait, on a compris...
Plus fort que ceux qui parlent fort.
On est moins doués pour vociférer, mais néanmoins, comme on est un peu fatigué d'entendre des gens dire n'importe quoi très très fort, on a envie de dire, mais vous savez, nous, le fait de croire qu'il existe des solutions, qu'on peut continuer à progresser, que des choses avancent, même s'il faut qu'elles avancent encore plus vite. Si vous ne voulez pas nous entendre, on va le dire plus fort.
Merci Caroline Fourest. Vous restez avec nous. Je rappelle que Génération en français, qui est paru en février 2020, est toujours disponible et que c'est toujours un bon ouvrage.
C'est en poche.
Et que c'est en poche. Maintenant, on continue à évoquer l'actualité. C'est la story de Mohamed Bouafsi. Salut Mohamed.
Salut à tous.
Bonsoir,
à tous.
Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, a passé 48 heures en Hongrie et c'était tout sauf une visite officielle.
48 heures avec un seul objectif, ne pas croiser Viktor Orban, le premier ministre d'extrême droite de la Hongrie. En revanche, aller à la rencontre de ses opposants à Budapest pour leur assurer du soutien de la France. Première étape de cette visite pour Clément Beaune, une rencontre avec les membres de Klub Radio, une radio indépendante privée d'antenne après avoir critiqué le premier ministre hongrois. L'indépendance des médias, la liberté de la presse, Clément Beaune a tenu à rappeler les exigences européennes. Louis Amar et Anaïs Recouli étaient dans ses bagages pour cet avou.
C'est pas de la provocation, mais c'est un combat. Si on pense que l'Europe doit se désintéresser des sujets de liberté de la presse, de pluralisme des médias, on ferme la boutique. Moi, je n'ai pas le mérite que ceux qui se battent pour être indépendants ont chaque jour. Bon. Mais je dois les soutenir, je crois que ça fait partie de ma mission. Et moi, j'ai la vision d'une Europe qui est politique, qui se défend et qui défend ses valeurs. Je ne romps jamais le contact avec les autorités politiques hongroises. J'ai vu la ministre, mon homologue, aujourd'hui même. Mais on doit aussi tenir ferme sur ce discours des valeurs.
Mais le moment le plus important de la visite de Clément Beaune, c'est sa rencontre avec une association LGBT+. Depuis quelques semaines, la Hongrie, poussée par un Viktor Orban homophobe, a promulgué une loi censurant les contenus homosexuels aux moins de 18 ans. En clair, Viktor Orban a interdit toute image au cinéma, à la télévision ou les écrits dans les livres et journaux évoquant l'homosexualité. Le ministre français considère que c'est une loi homophobe, grave et que l'Union européenne doit réagir.
Il faut bien sûr mettre des pressions politiques, financières, budgétaires éventuellement. Ça fait partie des outils européens qu'on n'avait pas il y a quelques mois et qu'on est en train de développer.
Mais pour autant, le gouvernement de Viktor Orban n'a pas reculé. La loi n'a pas été modifiée d'une virgule. Pour l'instant, c'est un combat, comme vous dites, que vous ne gagnez pas.
C'est vrai. Pour le moment, c'est un combat qu'on doit continuer. Mais regardez ce qui se passe sur certains autres sujets. La réforme de la justice en Pologne, on voit qu'il y a eu des reculs, des changements. Et puis, je l'ai vu en discutant ce soir avec les associations, la loi qui a été votée en Hongrie au mois de juin, qui est une loi, je crois, homophobe, elle est remise en cause.
Les militants hongrois sont fatalistes. Un seul espoir pour eux, les prochaines élections afin de faire perdre Viktor Orbán.
Parties that are in opposition currently, at least in words, say that they agree with equality, that they will revoke this restrictive legislation. So we are hopeful, but there is still an election to go and a very difficult times coming after the election, even if the opposition wins, because it's a very wide coalition of parties with very different ideological opinions. Some of them are left-wing, some of them are right-wing, even far-right.
Viktor Orbán n'a pas rencontré Clément Beaune. En revanche, ces derniers jours, le Premier ministre hongrois s'est illustré en recevant avec faste Éric Zemmour et Marion Maréchal. Le polémiste français qui rejette l'Europe était reparti de Budapest en chantant les louanges de Viktor Orbán et en dénonçant, lui aussi, je cite, « la propagande totalitaire menée par le lobby LGBT en Europe ». Clément Beaune lui a répondu.
Je pense que ça tombe bien. J'assume ce clivage et ce combat politique qui montre que des idées dangereuses ne sont pas que à quelques centaines ou milliers de kilomètres de la France, elles sont chez nous. Et je suis d'ailleurs choqué de voir qu'Éric Zemmour, il est venu ici, et puis maintenant il tient un discours sur la propagande LGBT qu'il a entendu dans le discours politique hongrois de certains responsables. Si c'est ça, défendre les valeurs de la France et les idées françaises et se prétendre indépendant de toute influence étrangère, c'est un peu bizarre.
Le seul rendez-vous qui n'a pas été accessible à notre caméra durant le voyage de Clément Beaune a eu lieu avec son homologue hongroise. Il a tenu à lui rappeler les désaccords profonds entre les deux pays sur l'état de droit. Le 1er janvier 2022, la France aura plus de poids en Europe puisqu'elle prendra la présidence du Conseil de l'Union européenne pendant 6 mois. Caroline Forest, une alliance entre Viktor Orbán, Éric Zemmour, Marion Maréchal, c'est ça l'Europe de 2022 ?
En tout cas, c'est très cohérent parce que ce que fait Orbán en Hongrie, c'est évidemment ce qu'Éric Zemmour et Marine Le Pen ont envie de faire en France.
Marine Le Pen qui sera aussi en Hongrie.
Bien sûr, il va y avoir une compétition. Mais ce qui est glaçant, quand je disais tout à l'heure, un malheur n'arrive jamais seul, c'est que pendant qu'on est focalisé ici à juste titre sur nos problèmes, c'est-à-dire la montée de l'intolérance, la montée du radicalisme religieux, de l'homophobie, du sexisme, le retour du machisme en banlieue, très bien. Alors donc, la solution, c'est le machisme, l'homophobie, le nationalisme et l'intégrisme religieux hongrois. C'est ça qui est fou, en fait. C'est-à-dire qu'on a des gens qui nous expliquent qu'on vit en dictature en France et qui vont s'agenouiller devant un tyran, parce que M. Orbán est un tyran. On a des gens qui nous disent « mais nous, on défend la liberté de la presse et Charlie Hebdo, et on va s'agenouiller devant quelqu'un qui est en train de tuer la liberté de la presse dans son pays ». Et on a eu récemment là toute une ribambelle de gens qui se sont beaucoup émus, à juste titre, de l'agression d'un jeune homo en banlieue, mais qui sont en train d'essayer de vouloir importer des lois homophobes de Hongrie. Mais je veux dire, on marche sur la tête. Personne ne voit l'incohérence de tout ça.
Et ce qui est intéressant, c'est que l'influence étrangère dont vous parliez, Mohamed, elle vient d'encore plus loin, de plus à l'est, puisque la loi hongroise est le décalque exact d'une loi russe qui a interdit toute écrit et toute publication homosexuelle pour les moins de 18 ans.
Si mais... je peux rajouter un mot, Patrick, c'est que pareil, tous les discours isolationnistes qu'on est en train d'entendre, il faut plus se mêler de ce qui se passe, ni avec les Kurdes, ni en Libye, ni ailleurs, très bien. Et on va s'occuper que des Français. Mais notre sécurité dépend de notre place dans le monde. C'est ce qui se passe en Afghanistan en ce moment qui va nous retomber demain en termes d'attentats peut-être sur le nez. Donc on a besoin de continuer à s'occuper du monde et entendre des partis qui sont, on le sait, très sensibles, là je parle du Rassemblement National, très sensibles aux ingérences russes, qui, elles, la Russie a intérêt à ce que la France perde sa place dans le monde. Il ne faut pas être naïf de tout ce jeu de dupes. Voilà.
Merci beaucoup Mohamed. Merci à tout à l'heure pour la story média. Émilie, l'affaire Hélène Pastor de nouveau devant la justice lundi prochain.
Oui, à Monaco, c'était l'autre famille princière, les Pastor, une dynastie de richissimes propriétaires immobiliers qui ont façonné Monaco. Ils sont à la tête d'un empire de plusieurs dizaines de milliards d'euros quand ils tombent au cœur d'une des affaires les plus retentissantes de ces 10 dernières années, quand le 6 mai 2014, l'héritière Hélène Pastor, première fortune de Monaco, est victime avec son chauffeur d'une fusillade alors qu'elle rendait visite à son fils à l'hôpital de Nice. C'est tout le rocher qui tombe alors dans la stupeur.
Devant le siège du groupe monégasque, le drapeau rouge et blanc de Monaco est en berne.
Une tragique histoire de famille, d'argent, de cupidité dans les coulisses de Monaco et de son luxe feutré. C'est l'histoire d'un commando qui exécute la milliardaire et son chauffeur sur le parking d'un hôpital niçois.
Hélène Pastor et son chauffeur sont atteints mortellement. Avant de succomber à ses blessures, Hélène Pastor aura juste le temps de dire aux enquêteurs «
J'ai peur, je veux vous revoir, car j'ai d'autres choses à dire ».
L'enquête est alors ouverte et va aller de rebondissement en rebondissement, de l'arrestation de petits délinquants des quartiers nord de Marseille, dont on apprendra qu'ils ont été recrutés par le coach sportif du commanditaire, le gendre d'Hélène Pastor, Wojciech Janowski, le consul honoraire de Pologne à Monaco.
Parmi la dizaine de personnes arrêtées figure le mari de Sylvia Pastor, Wojciech Janowski. Homme d'affaires à la tête d'une raffinerie polonaise, il est en grande difficulté financière.
Il l'aurait fait par amour pour sa compagne qu'il voulait protéger d'une mère malfaisante.
En garde à vue, Janowski nie, puis avoue avoir agi par cupidité et aussi par vengeance, car s'il se sentait rejeté par sa belle famille et par Hélène Pastor en particulier, avant finalement de se rétracter à nouveau. Mais le plus gros rebondissement reste à venir. Lors du procès, l'avocat de l'homme d'affaires polonais est Éric Dupond-Moretti et il déclare son client bel et bien coupable contre l'avis de son client, qui lui est beaucoup moins clair sur la situation. Janowski sera donc condamné à la perpétuité.
La perpétuité pour Wojciech Janowski, condamné pour avoir commandité l'assassinat de sa belle-mère Hélène Pastor et de son majordome Mohamed Darwish.
C'est une joie pour ma mère. Je fais ça pour elle.
Bonsoir Gildo Pastor.
Bonsoir.
Merci de votre présence ce soir, alors que dans 4 jours démarre le procès en appel de Wojciech Janowski, l'homme qui a été condamné à la perpétuité en 2018 pour avoir commandité l'assassinat de sa belle-mère, Hélène Pastor, votre mère héritière de l'une des plus grandes fortunes de Monaco, un accusé qui plaide désormais non coupable et qui veut, selon son avocat, défendre son honneur. Ce procès en appel, il sera pour vous l'occasion de vous exprimer ce que vous n'aviez pas pu faire il y a 3 ans, empêcher, diminuer par un AVC ?
J'ai eu 2 AVC. Le deuxième s'est terminé en une énorme tache de sang et m'a laissé sans force, plusieurs années sans parole. J'étais au procès comme un zombie. Hein.
Et vous n'aviez pas pu dire ce que vous aviez à dire, notamment faire état devant le tribunal des inquiétudes. Celles de votre mère dont elle vous avait fait part quelques mois avant d'être assassinée.
Enfin, en décembre 2013, elle m'avait interpellé, elle m'avait dit « Ils veulent nous tuer, j'ai des informations là-dessus. Et... »
Elle avait des rapports de détective,
ouais,
qu'elle avait sous les yeux, et elle savait que non seulement elle était menacée, mais vous également, ouais, vous étiez ciblée, ouais, visée.
Ma mère m'avait dit, sur son lit de mort, hein, « Ça sera ou l'un ou l'autre, et l'autre va faire... » à même de
révéler la vérité. Ouais. C'est vrai qu'elle savait qu'elle allait mourir et elle vous confiait, ouais, cette mission-là, de faire jaillir la vérité. Ouais.
Elle n'avait pas émis les 2 fois où la police était venue l'interroger parce qu'elle avait peur. Elle avait peur de ma sœur.
Elle vous l'avait dit. J'ai peur de ce que ta sœur pourrait faire contre moi.
Ouais.
Ce que vous... sous-entendez, c'est la duplicité, voire l'implication de votre sœur dans la disparition, l'assassinat commandité. Ce sont des accusations très graves que vous portez.
Oui, je pose la question. Ma mère et moi, nous avions depuis 25 ans des doutes sur mon beau-frère. Et puis, ces doutes sont révélés, des doutes nourris par des mensonge permanent et nous avons expliqué à ma sœur que ses doutes c'était ouais, plus vivre comme ça et elle a dit qu'elle le savait et ça ne la dérangeait absolument pas.
Elle savait les mensonges, elle savait les manipulations, ça ne la gênait pas.
Ouais. C'est fou. Hein.
Ce qui fait que vous doutiez de votre sœur, c'est son comportement, la façon dont elle n'a eu aucun geste, aucune parole après la disparition de votre mère, qu'elle vous a accusé d'avoir flambé des millions, d'avoir des dettes, d'être cocaïnomane, d'être la honte de la famille, d'avoir fait, elle, table rase de votre mère
c'est
très peu de temps après sa disparition.
C'est surprenant. J'ai toujours été le mec qui bossait, toujours. Et ma sœur, elle a toujours été la femme qui ne bossait pas. Ouais. Ça me fait rire.
Janowski, personnage trouble dont certains mensonges et manipulations ont été mis au jour, démontés lors du premier procès. Il va grimper les échelons jusqu'à créer des entreprises, mais il vit surtout, c'est ce que aussi l'audience a montré, des 500 000 euros que votre mère allouait chaque mois à votre demi-sœur ainsi qu'à vous-même. Ses affaires n'étaient pas florissantes. Est-ce qu'il vous semblait obsédé par la, d'une façon ou d'une autre, par la fortune de votre famille ?
Oui, il a interpellé ma mère en vue d'obtenir un prêt ou un don de 40 millions d'euros. Ma mère, elle n'a pas du tout accepté ça. C'était pour un projet d'une raffinerie. Et sur ce, il a dégommé ma mère. Mmh.
Qui se méfiait de lui.
Ouais.
Elle s'en méfiait ouvertement.
Ah oui. Elle s'en méfiait ouvertement, elle s'en méfiait auprès de ses amis et voilà.
Le premier procès, vous l'aviez raconté à l'époque, en 2018, et vous expliquiez, vous décriviez l'attitude de Janowski. Il a un air narquois, on dirait qu'il se marre, il me regarde avec insistance, il se sent fort parce qu'il est convaincu qu'il va s'en sortir. Je l'entends clamer son innocence, je m'y attendais. Qu'est-ce que vous espérez de lui ou de ce nouveau procès en appel ?
J'espère que toute la vérité soit faite, mais surtout, si vous avez demandé de tuer à quelqu'un, il y ait un peu plus de transparence pour savoir si c'est pour vous ou pour quelqu'un d'autre.
Sur le banc des parties civiles, vous serez assis,
ouais,
à côté de votre sœur Sylvia, avec laquelle vous n'avez plus échangé depuis 2018.
Non.
À la fin de ce premier procès, vous vous êtes quitté sans un regard, sans une parole. Non. Elle sera de nouveau assise à vos côtés, alors qu'aujourd'hui, vous doutez de sa duplicité, voire de son implication.
Oui, c'est triste à dire. Hein.
Vous vivez désormais, vous avez été nommé consul général de Monaco à New York.
Ça fait 7 ans.
Ça fait 7 ans. Si vous vivez à New York, aux États-Unis, c'est parce que vous ne souhaitez plus vivre sur le rocher monégasque.
Je ne peux plus supporter...
de vivre là-bas. Ouais. Merci beaucoup, Gildo Pastor, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Lundi prochain démarre le procès en appel de votre beau-frère, Wojciech Janowski, condamné en première instance à la perpétuité pour avoir commandité le meurtre de votre mère. Merci d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Qu'est-ce que tu veux faire ? On est revenu.
Bonsoir Babette, bonsoir à tous.
Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Mathieu. Bonsoir.
Ce soir, c'est sur un terrain de foot qu'on a vu Emmanuel Macron.
Oui, et il a joué, le président, un match de gala pour les 50 ans du Variété Club de France. Alors pour la compo, c'était comme pour un vrai match de foot, regardez. Le président avec le numéro 3, il a joué milieu défensif, milieu droit, aux côtés du coach Rudy Garcia, d'Alain Giresse, Marcel Desailly, Jean-Michel Larquet, entre autres. Alors je ne vais pas vous raconter le match en détail, simplement rappeler que c'est pour la bonne cause d'abord, pour la fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, présidée par Brigitte Macron. Mais simplement, Emmanuel Macron, fan de l'OM, sur un terrain de foot, ça donne ça.
Alors voilà, et regardez, peut-être qu'il est... Non,
il y a un bon passif.
Ah, ça y est, premier ballon pour Emmanuel Macron.
Oh là, fortement applaudi par la foule. Il veut trop en faire. N'ose pas attaquer le président de la foule.
Attendez, il va quand même pas gagner sa place en équipe de France.
Pénalty, non
pour, pénalty, oui, pour le Variété Club.
Ah, il y a un soignant qui a l'air de pousser le président de la République à le tirer.
Oh là, grosse pression.
Plein du
pied. Ah, mais il est allé.
Et voilà.
Et voilà.
Oh. Intérieur du pied.
Au centre, c'est culotté. C'est d'une guerre psychologique, finalement, le football. Et on sait qu'Emmanuel Macron excelle dans ce domaine.
But alors, de Macron. Bon, j'adore le bandeau. But Macron, de Macron, c'est formidable.
Macron égalise, on a eu après. L'arbitre a montré très rapidement le point de pénalty. Bon, le président a marqué, ça, c'est la moindre chose.
Il était dans les buts.
Alors, en face.
C'est un match truqué.
Je vais vous expliquer. En face, nous avions donc une équipe de soignants de Poissy. Écoutez, celui qui avait la charge de marquer le président de la République.
Je pense pas que je vais le tacler, non. Je pense que je vais y aller, je vais marcher sur des œufs. Après, s'il faut que je lui prenne le ballon, je lui prendrai. Mais en aucun cas, je suis là pour tacler qui que ce soit ou pour faire mal. Pour moi, là, c'est hors politique, c'est vraiment prendre du plaisir. Les amoureux du foot se retrouvent et ils agissent tous ensemble pour une bonne cause.
Alors on sent une légère hésitation, hein, pas de tacle par derrière sur le président de la République. C'est sûrement moins délicat que d'autres matchs avec d'autres dirigeants parfois plus autoritaires. Voilà. Joli coup de pied.
Pour Poutine, les autres joueurs s'écartaient sur son passage.
on a
déjà vu ces images. Il y a une sorte de.
Oui, de mer rouge.
Comme le mer rouge. Ouais.
Retour en France. Alors, en politique, il y a les vrais et les faux sportifs. Beaucoup de communication, surtout. Il faut quand même le souligner. On en rigole. Mais au moins, chez nous, justement, on peut sourire.
Il est resté bloqué sur les pistes.
Est-ce qu'il arrive à Valéry Giscard d'Estaing?
Est-ce qu'il veut bien descendre cette pente?
Il s'est enlisé dans la neige.
Est-ce qu'on l'a ou est-ce qu'on passe à la suite?
Chute dans la poudreuse.
On appelle l'image gelée.
Ici, Nagano.
Bon. C'est dommage.
Et bon, oh non,
François Hollande qui tire à l'arc une autre fois.
Bon, donc c'est une journée que le président consacrait donc au sport.
Oui, il n'y a pas que ce match de foot. Emmanuel Macron démarrait la journée sur un autre terrain, l'olympisme. Déplacement en Seine-Saint-Denis sur les chantiers des Jeux de Paris 2024, avec des promesses, 200 millions d'euros investis pour 5000 nouveaux équipements dans le pays, investissement, ambition. Alors que le président est interpellé sur sa politique pour le sport, il ne suffit pas de s'intéresser aux athlètes, lui dit-on, pour faire de la France une nation sportive. Plusieurs voix réclament plus, réclament mieux, une vraie politique pour le sport qui s'appuie aussi sur le sport pour la société. Déjà, au retour des athlètes de Tokyo et avec l'objectif de Paris 2024, le président avait agacé les sportifs.
Les résultats sont là, mais des progrès restent possibles. Le bilan global de ces Jeux Olympiques n'est pas tout à fait au niveau que nous attendions. On sait que sur certains sports, il est même mitigé. Et on ne peut pas construire une réussite si on ne se dit pas les choses en vérité.
Alors, de nombreux athlètes s'étaient montrés irrités. Et moi, personnellement, je n'ai pas envie de me fâcher avec Teddy Riner.
Se dire qu'on va faire 90 médailles à Paris 2024, non. J'aimerais qu'on me fasse mentir. Hein. Mais il faut faire beaucoup plus de choses pour pouvoir prétendre à 90 médailles en 3 ans. Il fallait investir déjà 7 ans en arrière dans le sport, massivement. Confronter notre jeunesse à l'international. Alors, on pourra toujours se cacher derrière le Covid.
Alors il faut être honnête, hein. Riner avait tempéré ses propos justement tenus avant le discours du président de la République, je voudrais le préciser. Il ne s'est pas dédié, en revanche, il maintient que pour espérer 90 médailles en 2024, il fallait investir plus tôt.
Ouais, donc c'est trop tard, quoi.
C'est ce que dit Teddy Riner.
Avec lequel vous ne voulez pas vous fâcher. Anne Hidalgo doit officiellement être investie ce soir par le Parti Socialiste.
On peut se fâcher avec Anne Hidalgo. Bon, puisqu'on parlait des Jeux Olympiques, regardez. Regardez comme elle a rhabillé le Conseil de Paris. Première session depuis l'annonce de sa candidature, le drapeau des Jeux en grand. L'important, c'est de participer, disait Coubertin. En tout cas, tout peut servir pour inverser la tendance.
Une candidature Hidalgo est-elle le naufrage assuré pour le Parti Socialiste ?
Elle plafonne aujourd'hui dans les sondages entre 4 et 6%.
Et c'est deux fois moins que son principal concurrent à gauche, Yannick Jadot.
En coulisses, on lui dit « Attention, arrête de répéter sans arrêt que tu es écologiste ».
Ses partisans espèrent que le vote de ce soir pourra lui donner un nouvel élan.
Anne Hidalgo qui espère, en cas de victoire, que sa campagne pourra enfin décoller.
Et pour une rentrée politique à Paris, c'était hier qu'Anne Hidalgo a eu une journée compliquée, à gauche, à droite. C'était tous contre elle.
Personne n'est dupe. Vous êtes à 4%, abonné à 4%, et vous n'irez pas plus loin.
Madame la maire, nous nous interrogeons sur la pertinence de la séquence de communication que vous nous imposez aujourd'hui.
Une grande communication environnementale dont on peut se demander si elle ne répond pas davantage à des fins médiatiques et électoralistes plutôt qu'à de véritables ambitions écologiques.
Devant la faiblesse de votre candidature, le Conseil de Paris devient une tribune de votre campagne électorale désespérée et désespérante.
Et puisqu'on a parlé de sport et de Paris, un petit peu de vélo à présent. Un journaliste du New York Times a sorti sa plus belle plume pour dire son étonnement. Je vous conseille l'article vraiment, quelque part aussi. Son admiration devant l'anarchie du vélo à Paris.
Admiration, oui.
Traduction. Des cyclistes grillaient les feux rouges dans les deux sens, tandis que des livreurs à vélo, les yeux rivés sur leur téléphone, filaient au milieu de trottinettes zigzagant entre les voies, perdus dans la masse, des piétons indisciplinés, hésitant, tentés de se frayer un chemin. Sur la rue de Rivoli, des cyclistes slaloment entre les piétons indécis. « Faites attention !» crie un cycliste vêtu d'un gilet réfléchissant et de lunettes en direction de trois femmes qui traversaient au feu rouge. Il avait failli les percuter sous la pluie. Mobilité douce, comme on dit en l'occurrence, les vélos, les trottinettes. Et justement, loin de moi, hein, l'idée de raviver une guerre entre les cyclistes et les automobilistes. Mais on vous a trouvé ce youtubeur qui s'amuse de la circulation cycliste dans la capitale.
Attention, enfin ! Oh là là !
Les warnings, c'est fait pour signaler un danger, monsieur. Ça n'est pas fait pour stationner. Attention, les petits bouts de pied, là. Super, super stationnement, ça. Ça, c'est un bon stationnement, ça. Je pense pas, non. Je pense pas. Vous n'êtes pas des modèles. Non, 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 monsieur, non, monsieur, non. Il a failli me tuer, l'assassin. Ça va pas, la cabessa.
Moi, je suis sûr que certains se sont reconnus ce soir ou ont reconnu leur trajet parisien. Vous êtes trottinette, vélo?
Je suis trottinette, vélo TikTok plus trottinette, vélo, je pense que ça devient un cocktail dangereux. Mais en tout cas, c'est la première fois que je reconnais la France dans un article du New York Times. Là, j'ai bien reconnu, là.
Oui, parce que d'habitude...
Non, d'habitude, c'est n'importe quoi, surtout sur la laïcité, mais là, on était en plein dedans.
Je vous conseille vraiment le papier, par contre. Il est vraiment très bien écrit.
En même temps, on le vit, hein, donc je crois qu'on a...
On n'a pas besoin d'eux pour nous le dire. Mais on avait compris avant qu'il s'en mêle. Et boum pour le New York Times. Plus léger, Mathieu, le 5 sur 5 se poursuit en cuisine.
Plus léger? Mais vous plaisantez, Babette. On est sur un choc diplomatique. On est sur une attaque géopolitique sous la ceinture contre la France depuis un autre pays de l'Union européenne. Ce soir, je veux vous parler du Mozzagate.
Cette information maintenant qui nous a estomaqué ce matin, c'est le cas de le dire.
L'information de la matinée, Christophe. Gros coup de mou pour le camembert.
Terrible, terrible.
La mozzarella est-elle vraiment devenue notre fromage préféré, s'interroge Pascal? Oui.
Voilà que la mozzarella italienne pourrait détrôner notre bon camembert.
On a mangé le mois dernier plus de mozzarella que de camembert.
Donc on assiste au grand remplacement italien.
Oh là là.
Ah, le mot est lâché. Grand remplacement. C'est une première. En septembre, les ventes de mozzarella ont dépassé les ventes de camembert. La tradition se perd face à un fromage qu'on utilise en cuisine, dans les lasagnes, les pizzas. La mozza, en réalité, est partout. Et on sait qu'en France, les questions culinaires sont des questions sérieuses.
Le plat préféré des Français, c'est le couscous.
Ah, ça a été... Vous avez vu, il est passé deuxième.
Les Italiens ne sont pas les plus gros mangeurs de pizza d'Europe, c'est nous les Français. Je le prends comme un exemple amusant de ce que signifie l'interpénétration des cultures et la production d'une culture en commun.
Même le politologue Jérôme Fourquet de l'IFOP décrit la France par son alimentation. Regardez.
Essayer de détailler un petit peu la sédimentation des couches culturelles, des influences qui s'étaient sédimentées dans notre pays. Un produit emblématique de tout ça, ça pourrait être le tacos français, un produit d'inspiration mexicaine, réinventé dans la banlieue de Grenoble, packagé selon une mode américaine, puisqu'il y a une chaîne qui s'appelle Otacos, avec des influences maghrébines. Et c'est un produit d'exportation français. Mmh. Et c'est aujourd'hui un produit qui est plébiscité par les jeunes générations.
Est-ce qu'il faut défendre le camembert, le...
Ah, moi, j'ai peur d'être déjà bien gagné par la burrata. Hein. Je suis désolée, je pense que je ne serais pas très patriote sur ce coup-là. Je pense qu'on a le droit de manger ce qu'on veut. Ce qui est bien, ce qui est important, c'est de manger quelque chose de plutôt bon. Voilà.
Alors, je vais vous aider, figurez-vous, ce soir, Caroline Forest, parce que pour en revenir à la mozzarella, on a voulu...
les cèpes qui sont là-bas, qui sont énormes, qui font perdre envie.
Elles seront pour vous. Hein.
Non.
Tout à l'heure. C'est plus le Beaufort que la mozza. Hein.
Ça,
on a un meilleur parfum.
C'est un cadeau,
oui. Tout peut se négocier, je crois. On a voulu creuser le dossier. On a des Parisiens qui font du fromage. On aurait pu le voir venir. Il y a déjà des producteurs de mozzarella à Paris. Et Camille Schmitt les a rencontrés.
Ça, c'est une semure classique de ma région. Le lait vient d'Auvergne, du Cantal. C'est un produit frais. Et après, c'est une vraie mozza. Et la mozza ne doit pas être molle à l'intérieur. Ça doit être, la mozza doit rester élastique et juteuse.
Alors Franco Picciolo, vous l'avez compris, il est venu d'Italie pour faire de la mozzarella chez nous, au pays du fromage. Alors cette guéguerre mozza camembert, il en pense quoi?
Voilà, le matin, j'écoute la radio italienne. Ils disaient, on a gagné une autre coupe aujourd'hui, alors
ils se vantaient
de ça. C'est pas de la provoque, c'est un fromage que vous faites pas. Ça vient pas de votre tradition, alors c'est plutôt ça. Le camembert, vous mangez à la fin de repas. La mozza, vous pouvez manger au début et à la fin, ou entre-temps.
Il y a quand même un débat qui s'est lancé en plateau. Hein. Mozza ou burrata?
Oui, nous, on est team burrata.
On est en pleine polarisation. Mozza,
oui. Burrata.
Exactement.
Non, burrata.
Hein? Ouais, je sais pas.
Mais non, mais vous ne mettez pas une mozza sur un plateau de fromage. Donc le camembert reste un fromage roi sur le plateau.
Sur le plateau
c'est deux usages différents. La mozza s'utilise beaucoup en cuisine Ce qui est peu le cas du camembert, sauf les camemberts...
C'était l'édito fromager de Patrick Cohen.
On pouvait aller plus loin.
Et on termine ce 5 sur 5 en faisant rimer politique et botanique.
Oui, c'est un portrait de Michel Barnier qui nous a interpellés, inspirés, on peut le dire, Babette. Paris Match qui consacre 2 double pages au candidat à l'investiture Les Républicains pour la présidentielle. Avec cette phrase d'un homme au plus près de la nature, je pense qu'il faut prendre un air, un ton un peu pénétré. On ne peut pas devenir président de la République sans aimer les arbres. Mmh. Alors on pourrait se moquer, ce n'est pas forcément faux, au moins pour le symbole. Verticalité, croissance au long cours, robustesse, racines profondes. Le pommier, tiens, par exemple, que l'on retrouvait bien sûr dans la campagne de Jacques Chirac de 95. Manger des pommes, répétait la marionnette des Guignols. Plus récemment, vous vous souvenez bien sûr de ce chêne français planté à la Maison Blanche pour sceller l'amitié franco-américaine, l'amitié Trump-Macron.
Appuyé, alors, d'ailleurs.
Pour info, cet arbre est mort dans l'année qui a suivi.
C'est vrai ?
Oui, c'est vrai. Quand ça veut pas, ça veut pas. Traditionnellement, en France, ce sont les premiers ministres qui plantent un arbre en arrivant à Matignon. Morceau choisi.
Le Premier ministre a planté un arbre ce matin dans le jardin de Matignon. Il a été aidé par des élèves d'une classe de CM2 du Havre. C'est la ville d'Édouard Philippe. Et en bon normand, il a planté un pommier.
C'est pas comme ça qu'on fait.
Il a bêché toute sa vie.
Moi, je ne sais pas qui sont ces conseillers qui laissent les premiers ministres planter des arbres en costume, 3 pièces, chaussures de ville. Il y en a un de politique qui ne fait pas semblant avec la réalité, avec le travail de la nature, torse nu, il coupe du bois. C'est Jean Lassalle.
Oui, quand il s'agit de défoncer du bois, John Lassalle est bien le président.
Ça a l'air simple. Voilà.
Le seul politique moi, que je connais qui ait fait ça, c'est Poutine.
Ça a été fait sciemment pour montrer les muscles, etc.
Ouais.
Et là, par contre, à mon avis, c'est ridicule. Mm-hmm. Tandis que moi, pour interroger tous ceux qui me connaissent depuis très longtemps, mm-hmm. ils savent que c'est la vérité.
Bonsoir Antoine de Cône.
Bonsoir.
Miracle de la télévision.
Ah, c'est extraordinaire. Hein, ce soir, ce soir ça rentre, ça sort, ça rentre.
Je serais venu
torse nu.
Oui.
Parce que
rendre honneur à cette émission.
Est-ce que pour être président de la République, il faut aimer les arbres?
Faut aimer les casser en deux déjà. Enfin, on me dirait que Jean Lassalle n'est pas président de la République.
Non. Mais il est candidat.
Il est candidat?
Oui, oui. Bonne nouvelle, il me semble qu'il est candidat à l'élection présidentielle.
Oui, c'est déclaré
permanent.
Candidat.
Oui, voilà.
Et sans langue de bois.
Extrait de la Gaule d'Antoine.
Oui.
Une émission formidable.
C'est bizarre.
Au titre
de... Extrait de la Gaule d'Antoine.
Elle, ça résume écrit, absolument ça va, concept, mais... non?
Ah oui, oui. Enfin, là, c'est une des toutes premières. Ça, c'était dans la région Aquitaine.
L'idée, c'est que vous
se balader, se balader à travers la France pour rencontrer des gens un peu originaux. Oui.
Mais c'est pas pour ça qu'on vous reçoit, cher Antoine.
Mais c'est pourquoi donc?
On vous reçoit pour Perso.
Ah.
C'est quoi? Un recueil de souvenirs, le 400 pages pour raconter votre vie.
C'est pas une autobiographie.
C'est pas des mémoires.
C'est pas des mémoires. Ça, vraiment, je suis très vigilant là-dessus. Non, c'est une collection de souvenirs, de rencontres, de gens que j'ai croisés qui m'ont profondément influencé.
Mmh. Oh, est-ce qu'il n'y aurait pas un chapitre Pierrot? Si,
je ne sais pas.
Il y a un chapitre Pierrot pour Pierre Lescure. On y revient.
Pierrot, c'était le nom d'un restaurant.
C'est un livre que j'aurais dû emporter à Sainte-Hélène. Et c'est signé Napoléon. Je crois que c'est l'une des meilleures promos que j'ai jamais vues en quatrième de couve d'un livre. Un livre que j'aurais dû emporter à Sainte-Hélène, Napoléon. Est-ce que ça vous donne pas envie de le lire, chère Caroline?
Si, surtout le chapitre sur Pierre.
Pierrot, on y vient dans un instant avec Antoine de Cône. Il y aura aussi le Vu, la story média de Mohamed Bouafsi, l'œil de Pierre et le dîner de C'est à vous. On parlera d'Yves Montand avec le documentaire d'Yves Gélan.
Et champignons.
Et de champignons, des grosses cèpes à venir. Elles sont énormes.
C'est pas vrai.
Elles ont été cueillies lundi, Antoine.
Tellement faim.
C'est vrai?
Ah oui.
Ah bon, on va manger, à tout de suite.